Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église est marquée notamment par les activités du pape au courant de la semaine. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et en Ouganda, entre autres. Commençons l'actualité de l'Église avec la semaine du pape présentée par Donatien Niembo.
Le Saint-Père a adressé samedi un message aux frères mineurs qui clôturent leur chapitre général. Le renouveau de la vision de l'ordre passe par un retour à l'expérience fondatrice vécue par Saint François, à savoir la rencontre avec le plus pauvre, a affirmé le pape. Il avait été rendu public vendredi les motu proprio du Saint-Père intitulé « Traditionis custodes », redéfinissant les modalités de recours aux missels préconciliaires. Toujours vendredi, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin avait adressé un télégramme au président François-Walter Steinmeier de la République fédérale d'Allemagne pour exprimer sa proximité avec les victimes des inondations qui ont frappé le pays. Il avait été rendu public jeudi le rapport de l'autorité de surveillance et d'information financière 2020, selon lequel le Saint-Siège se classe parmi les juridictions les plus vertueuses dans certains domaines comme la finance, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mercredi, le pape François avait quitté la polyclinique Gemelli où il avait passé 10 jours après une opération au côlon. Mardi, le pape avait visité le département d'oncologie pédiatrique de la polyclinique Agostino Gemelli où il était hospitalisé pour saluer les enfants malades hospitalisés dans ce service. Toujours mardi, le pape avait adressé un télégramme au père Massimo Fusarelli après son élection comme ministre général de l'ordre franciscain des frères mineurs. Le pape avait également envoyé un télégramme de condoléances au cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, à la suite du décès de son prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, le 11 juillet dernier. Mardi, un autre télégramme du Saint-Père était signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et adressé aux nonces apostoliques du pays médian, Monseigneur Mitsa Lescovar, pour les victimes de l'incendie d'un hôpital en Irak.
En Ouganda, le projet Green Schools, Greening the School, lancé en 2019 à Lira par la Conférence épiscopale nationale, à travers sa commission pour l'éducation, avec le soutien du ministère de l'eau et de l'environnement et la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, consiste à planter des arbres dans les écoles et les instituts de formation du pays dans le but de sensibiliser les gens à la sauvegarde de la création à la lumière de l'encyclique Laudato Si du pape François. Dans cette encyclique, explique le père Ronald Okello, secrétaire général de la Commission pour l'éducation de la Conférence épiscopale ougandaise, le pape lance un appel à chacun d'entre nous pour qu'il prenne des mesures urgentes pour faire face à la crise environnementale afin d'initier un mode de vie durable et digne pour tous. Jusqu'à présent, les archidiocèses de Tororo et Goulou ainsi que les diocèses de Lira, Arua, Nebi et Soroti ont déjà mis en œuvre le projet à tel point qu'une grande variété d'arbres a été plantée sur environ 15 000 hectares de terrain. Mais des travaux sont en cours pour étendre le programme, la poursuite des travaux étant entravée par l'urgence sanitaire de COVID-19. En raison d'une nouvelle vague de pandémie, de nombreuses écoles en Ouganda sont fermées pour éviter la contagion parmi les étudiants. Parallèlement, ajoute le père Okello, l'idée est également de mettre en œuvre le programme dans les paroisses et les communautés chrétiennes afin de leur permettre de vivre dans un environnement sain et de pouvoir produire de manière autonome leurs propres ressources de base. Il est urgent de mettre en lumière ce qui s'est passé au fil des ans entre les communautés de Zande et de Balanda et qui a créé l'inégalité, la peur, l'intérêt, l'injustice et l'absence d'état de droit à Tombora, C'est l'appel que les citoyens de Yambio au Soudan du Sud ont adressé aux autorités locales, en plus de l'appel lancé par les chefs religieux locaux pour mettre fin au conflit qualifié d'insensé qui se déroule dans l'état d'Équatoria occidentale, dans le comté de Tomboura. Mettez fin au conflit et ouvrez la voie au dialogue et à la réconciliation, écrivent les chefs religieux qui exhortent les autorités au pouvoir à faire preuve de responsabilité devant Dieu et l'humanité. Soyez honnêtes dans votre gestion du peuple de Dieu. Les chefs religieux ont également exhorté le gouvernement national et celui de l'État d'Équatoria occidentale à remplir leur obligation de protéger et de défendre sans distinction la population civile contre les agressions internes et externes. Ils ont également appelé les parties prenantes, la communauté internationale et les personnes de bonne volonté à contribuer au retour de la paix et de la normalité à Tomboura. L'accent est mis sur la situation humanitaire et d'urgence qui s'est créée à la suite d'un conflit entre les deux communautés. Priez pour que l'amour, la paix et l'unité règnent dans le cœur de chacun d'entre nous, peut-on également lire dans la déclaration commune. Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo où le clergé de Cabinda a mis un terme à sa retraite annuelle. Reportage.
L'évêque de Cabinda dans la province de la Lomami, Mgr Félicien Tamboué, et tous les prêtres du diocèse ont clôturé le samedi 17 juillet une semaine de retraite animée par l'évêque de Mbujimayi, Mgr Bernard Emmanuel Kassanda. Ils étaient réunis au petit séminaire Saint-Pie-X de Cabinda pour ce temps à la fois de fraternité et de ressourcement dans le Christ en vue d'un nouveau souffle dans la pastorale. Mgr Kassanda a placé sous l'aide de l'Esprit Saint les enseignements et les exercices spirituels comme la Sainte Messe, l'adoration au Saint-Sacrement, la récitation du chapelet et la confession.
Nous avons à comprendre que l'essentiel, c'est de dire à nous-mêmes que nous venons faire cette expérience personnelle de ce Jésus vivant. Nous venons pour améliorer la qualité de notre relation à lui, qui nous aide à comprendre que les succès, les échecs, les fatigues, les chutes, les découragements, tout cela, le Seigneur le reprend lui-même pour nous donner la possibilité de reprendre la route avec joie et fidélité.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Bénin, notre correspondant local nous rend compte de la cérémonie d'ordination sacerdotale dans le diocèse d'Abomey.
12 diacres ont été ordonnés prêtres de Jésus-Christ en la cathédrale Saint-Pierre et Paul du diocèse d'Abomey, Bénin, le samedi 10 juillet 2021 par l'ordinaire du lieu, Mgr Eugène Cyril Honécon. Il s'agit des abbés
Amou Ganako de la Société des Missions Africaines de Lyon, puis Yélia Oladochon Marcos Abessi, Herman Akofo, Abel Arlomessou, Anselme Arossi Mera, Xavier Kwemoulé Alissato, Lazare Avam Seno, Noël Aounon, Maurice Togbeji Gongo, Moïse Esaïe Senami, Seou Ejan, Dossou Michael Yevide et Jires Rodrigue Zizilokwe.
Le prélat n'a pu alors dissimuler sa joie au début de son homélie devant l'impressionnante foule de prêtres concélébrants et des fidèles chrétiens catholiques présents.
Au regard de cette provision divine, il convient de nous exclamer et de nous approprier cette prière prononcée par Saint Paul devant les Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la lieu céleste en Christ.
Il en a profité à la lumière des textes de la liturgie du jour pour appeler les ordinants à mesurer la supériorité du don du sacerdoce.
À la différence des prêtres de l'ancienne alliance, dont le sacerdoce est provisoire, le sacerdoce ministériel est une expression du mystère divin.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les émeutes et pillages qui ont récemment secoué l'Afrique du Sud et fait plus de 200 morts ont été planifiées et coordonnées dans l'objectif de provoquer une insurrection et déstabiliser le pays, a accusé vendredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pendant plusieurs jours, la région côtière du KwaZulu-Natal et la capitale économique Johannesburg ont été prises dans un tourbillon de vols et de violences. Les premiers incidents, pneus brûlés et routes bloquées, ont éclaté la semaine dernière en pays Zoulou, au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice dans cette région qui est son bastion. Les violences se sont ensuite étendues sur fond de crise économique et de chômage endémique. Entrepôts, usines et centres commerciaux ont été méthodiquement pris d'assaut par des pillards. Au total, au moins 212 personnes ont trouvé la mort, dont 180 en pays Zoulou. Des Sud-Africains ont continué samedi à nettoyer les dégâts après plusieurs jours de pillage et d'émeutes. Après une semaine d'incidents, un calme précaire semble régner. Aucun incident n'est signalé dans la capitale économique et même en pays Zoulou, où des poches de violence résistaient, alimentées aussi par des tensions raciales entre Sud-Africains noirs et d'origine indienne, une accalmie semble se profiler. 9 civils ont été tués dans 2 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo dans des attaques dont l'une est attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées. Parmi les personnes tuées figure le président du réseau des organisations de la société civile dont la mort a poussé les habitants à quitter la cité. Kalungu Kuta est située à 27 km de Beni dans le territoire du même nom. Des membres des milices Mai Mai, groupe d'autodéfense constitué sur une base communautaire, cantonnée dans la cité en attente de leur démobilisation, ont poursuivi les assaillants dans la brousse. Plus au nord, dans le territoire d'Irumu, dans la province voisine de l'Ituri, une attaque meurtrière dans la même nuit a occasionné la mort à nos 4 compatriotes, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Le ministère ougandais de la Défense a annoncé samedi qu'un soldat et 6 assaillants venus de la République démocratique du Congo avaient été tués dans des affrontements dans la forêt de Zéo, près de la frontière. Quelques 20 hommes armés déguisés en bûcherons et venus de la République démocratique du Congo ont attaqué vendredi matin un poste militaire dans une région couverte de jungle dans le nord-ouest du pays, a expliqué une porte-parole du ministère, Flavia Biekwasso. 6 assaillants ont été tués et 4 ont été faits prisonniers, a-t-elle ajouté. Des armes, dont une mitrailleuse, des arcs et des flèches ainsi que des machettes ont été saisies et le reste des assaillants poursuivis en coordination avec les autorités congolaises, a souligné Flavia Biekwasso.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le Rwanda a annoncé le reconfinement de la capitale Kigali ainsi que de 8 autres districts du pays à partir de samedi et jusqu'au 26 juillet pour endiguer l'explosion de cas de COVID-19 enregistrés ces dernières semaines. Les transports publics de personnes sont également arrêtés, les bureaux des entreprises et administrations fermés, les écoles fermées, les activités sportives et récréatives en plein air interdites et le nombre de personnes assistant aux enterrements plafonné à 15. Les arrivées et départs à l'aéroport de Kigali sont toutefois maintenus, ainsi que les activités touristiques dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. La méditation des textes liturgiques du dimanche avec le père jésuite Flavien Zolabi.
Chers frères et sœurs, les textes que l'Église nous propose en ces 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B orientent notre méditation autour de l'image biblique du berger. Ils nous révèlent qu'il existe deux types de bergers, les mauvais et les bons bergers. En effet, dans la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie, le Seigneur fustige le comportement des bergers irresponsables qui ne s'occupent pas des brebis qui leur sont confiées. Au contraire, il les égare et les disperse. Le Seigneur promet d'une part de réserver lui-même un sort à ces mauvais pasteurs et d'autre part de confier son troupeau à d'autres pasteurs responsables. Et la grande nouvelle de ces récits, c'est la promesse du Seigneur de susciter finalement dans la lignée de David un roi berger qui rassemblera tout le peuple séparé. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, l'apôtre des gentils voit se réaliser cette promesse divine du roi berger en la personne du Christ. Par le sacrifice suprême de sa vie sur la croix, le Christ a brisé les murs des divisions entre les peuples. Et par les dons de son esprit, il a offert à tous l'accès au Père. Le Christ se révèle ainsi pour nous, l'unificateur et le pacificateur de toute l'humanité. Le passage de l'Évangile qui introduit au récit de la multiplication des pains nous montre ce roi berger à l'œuvre dans l'ordinaire de la vie. En effet, revenu tout joyeux de la première mission pour laquelle Jésus les avait envoyés deux à deux, les apôtres se réunissent autour de lui. Et Jésus les invite à se retirer dans un lieu désert pour un moment de repos, de prière et peut-être d'évaluation de leur expérience missionnaire. Mais à peine qu'ils débarquent, ils sont rejoints par une foule immense, sans doute en quête de miracles, mais aussi de la parole de Dieu. Jésus et ses apôtres ne peuvent donc pas réaliser l'objectif de leur éloignement à l'écart. Ils doivent oublier leur repos pour s'occuper de cette foule. Jésus jette alors un regard pénétrant sur cette foule et fut pris de pitié pour elle parce qu'il la vit comme des brebis sans berger. Alors, comme un bon berger, il se mit à les instruire longuement. Certainement, cette foule venue à Jésus avait la faim physique. Mais l'évangéliste Marc nous présente Jésus lui offrant la nourriture de sa parole avant de lui donner le pain. Ce fait, qui nous rappelle Jésus pardonna les péchés du paralytique avant de le guérir physiquement, est sans doute très significatif et nous invite à examiner nos propres priorités que nous présentons à Dieu dans notre prière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous réalisons que de nombreux peuples, presque partout dans le monde, ont besoin de bons pasteurs, de bons bergers rassembleurs et non semeurs de divisions, des sages bergers qui réconfortent le peuple dans leurs épreuves et non qui exploitent leurs souffrances et leurs misères. Finalement, des bons bergers qui les conduisent vers les bons bergers et non les orientent vers eux-mêmes ou vers les idéologies, souvent aux apparences spirituellement chrétiennes. Que le Seigneur donne à ce peuple ces bons bergers dont ils ont besoin.
Le père jésuite Martin Baati continue de nous présenter le commentaire sur l'encyclique du pape Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, comme commencé la fois passée, aujourd'hui nous clôturons le troisième chapitre de notre lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Le dernier point de ce chapitre est intitulé « Remettre l'accent sur la fonction sociale de la propriété ». Ce point qui commençait en rappelant que le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu'êtres humains, nous naissons sur cette terre avec la même dignité, nous préparer à méditer sur les droits sans frontières et les droits de peuple. Justement, parlant des droits sans frontières, le pape stipule que personne ne peut être exclu, peu importe où il est né, et encore moins à raison des privilèges dont jouissent les autres parce qu'ils sont nés quelque part où existent plus de possibilités. Les limites et les frontières des États, continue le pape, ne peuvent pas s'opposer à ce que cela s'accomplisse. Tout comme il est inacceptable qu'une personne ait moins de droits parce qu'elle est une femme, il est de même inacceptable que le lieu de naissance ou de résidence implique à lui seul qu'on ait moins de possibilités d'une vie digne et de développement. Ainsi donc, selon l'encyclique, le développement ne doit pas être orienté vers l'accumulation croissante au bénéfice de quelques-uns, mais doit assurer les droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les droits des nations et de peuples. Selon l'encyclique, le droit de certains à la liberté d'entreprise ou de marché ne peut se trouver au-dessus des droits de peuple et de la dignité des pauvres, pas plus au-dessus du respect de l'environnement, car celui qui s'approprie quelque chose, c'est seulement pour l'administrer pour les biens de tous. Dans le dessein de Dieu, affirme le pape, chaque homme est appelé à se développer, et cela comprend le développement des capacités économiques et technologiques, d'accroître les biens et d'augmenter la richesse. Toujours selon le pape, à côté du droit de propriété privée, il y a toujours le principe plus important et prioritaire de la subordination de toute propriété privée à la destination universelle des biens de la terre et par conséquent les droits de tous à leur utilisation.
Invité du jour.
Notre invité du jour est Mgr Laurent Lompo, archevêque de Niamey au Niger. Dans cette première partie de l'entretien que nous vous proposons, Mgr Lompo nous parle de la situation d'insécurité que vit son pays depuis des années et de ses conséquences sur les populations. Il commence par nous dire comment l'année pastorale 2020-2021 a été vécue dans son archidiocèse. On écoute.
Au niveau de l'Église, de notre archidiocèse, je vais commencer par le plan pastoral qui nous a guidés tout au long de l'année. En octobre dernier, dans la joie, nous avons réuni les différents délégués de nos différentes paroisses avec les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs engagés pour un thème d'actualité vu le contexte dans lequel nous évoluons, l'insécurité généraliste. Le thème qui nous a guidés tout au long de l'année est le suivant. Église, famille, à travers un laïcat formé et engagé, témoigne de l'espérance en ce temps d'épreuve. Pourquoi ce thème? Puisque nous savons depuis quelques années, l'insécurité se généralise et nos paroisses ont été visitées. Nous avons un prêtre italien du nom de Pierre Luigi Macali qui a été enlevé, mais nous rendons grâce puisqu'il a été libéré. Nous avons une autre paroisse qui a été attaquée où un prêtre, le curé, était gravement blessé avec 3 balles et des chrétiens également. Donc nous étions dans l'obligation de fermer certaines paroisses où l'insécurité se vit de manière générale. À travers cette insécurité qui se généralise, nous avons pris le tournant par les cornes pour prévenir, puisqu'il y a des paroisses où les prêtres ne peuvent plus vivre, ni les religieuses, mais nous nous sommes dit que les laïcs qui sont dans les villages sont appelés à rester et nous avons dit il est temps que nous formions davantage des animateurs pastoraux, nos chrétiens, pour qu'ils puissent s'engager et pour la pastorale et au niveau du pays, à tous les niveaux, pour renouveler et pour être sel et lumière. C'est dans ce cadre que nous avons formulé le thème pour pouvoir vivre une année, former nos chrétiens au niveau de la foi, former nos chrétiens au niveau de la doctrine sociale pour qu'ils s'engagent davantage dans la société nigérienne. Et tout au long de l'année, les prêtres, les religieux, religieuses et les laïcs et délégués des paroisses sont repartis avec le thème pour travailler au niveau de chaque paroisse. Chaque paroisse avait choisi ses actions dans lesquelles elle voulait évoluer. Et moi, j'ai pris le temps cette année pour faire le tour de toutes les paroisses dans le cadre de visites pastorales, où j'ai pu mesurer sur le terrain les difficultés que vivent les chrétiens et aussi sur le terrain voir comment la vie chrétienne progresse. Je peux vous dire, malgré l'insécurité qui est généralisée, nous avons beaucoup de joie parce que cette année, nous avons eu beaucoup de baptêmes malgré l'insécurité, beaucoup de confirmations malgré l'insécurité. Et j'ai terminé la dernière paroisse à Niamey. J'ai confirmé 12 jeunes symbolisant l'envoi des 12 apôtres.
Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de Niamey au Niger, il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.